Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'une ardeur snobe.
Journal vivant. Revue politique.
Construction.
Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade. Hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imitait son silence.
Bonjour, vous êtes bien sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu. Nous allons lire donc une pièce de Inkemann de Ernst Toller. Avec nous dans le studio, Julien Michel. Bonjour Julien.
Bonjour.
Et Julien, tu vas donc jouer le rôle de...
Ingen Inkemann.
Et Daniel,
oui, alors
ton
Daniel,
rôle.
Daniel Liocadi, et je vais jouer moi Paul Grossehan et le couvreur de, d'ardoise.
Camille Ragné-Villard est aussi avec nous. Et
bonjour.
Tu vas donc
jouer Grete Hinkemann et Peter Immergleich.
Voilà. Jessica Jargo, avec nous aussi.
Bonjour, donc moi je vais faire Lady Dascali et deux, trois petits personnages.
Et enfin, Jade.
Bonjour, bonjour. Alors moi je vais faire Sebaldus Singegott, ainsi que le forain et le couvreur de tuiles.
Ouais, donc on vous laisse découvrir Inkemann, une pièce donc de Ernst Toller qui a été écrite en prison dans les années 20 en Allemagne.
Premier acte, scène première. Le décor évoque la cuisine d'un appartement d'ouvrier, servant également de salon. Grete Inkemann s'affaire autour du fourneau. Inkemann entre, s'assied à la table. Sa main droite posée sur la table serre un petit objet. Son regard fixe continuellement cette main.
Mère t'a donné du charbon ?
Inkemann ne répond pas.
Eugen, je te demande simplement si mère t'a donné du charbon. Réponds. Comme s'il n'était pas dans la chambre. Dis quelque chose, Eugen. Je n'en peux plus. Pas le plus petit morceau de bois. Pas de charbon. Eugen. Dois-je faire du feu avec notre lit pour nous chauffer ?
Un petit animal, aux couleurs vives, comme son petit cœur bat. On le sent dans ses mains, et plongé dans la nuit, toujours dans la nuit.
Que tiens-tu dans ta main, Eugen ?
Et tu restes impassible à côté de ton fourneau ? Les casseroles ne te tombent pas des mains ? Tu ne sens pas une grande obscurité t'envelopper ? Un petit animal, une créature terrestre, comme toi, comme moi. Tout à l'heure, pleine de vie, tirili-li, tirili. Tu l'entends chaque matin ? Tirili, tirili. C'est la joie de saluer la lumière. Tirili, et maintenant ? Maintenant, j'arrive au moment où elle crève les yeux à cette petite bête avec une aiguille à tricoter chauffée à blanc.
Qui, elle ?
Ta mère, ta propre mère, une mère. Une mère crève les yeux à son chardonneret avec des aiguilles chauffées à blanc parce qu'un journal a écrit que les oiseaux aveugles chantent mieux. J'ai jeté le charbon devant ses pieds, les 10 marks qu'elle m'avait données. J'ai corrigé ta mère comme on corrige une enfant qui tourmente des bêtes. Mais après, je l'ai relâchée. Une pensée qui me déchirait. Une pensée horrible, insupportable. N'aurais-je pas agi de même, autrefois, sans réfléchir ? Que signifiait pour moi la souffrance d'une créature ? Ce n'est qu'une bête, je le sais bien. On lui tord le cou, on la tue d'un coup de couteau, de fusil, et après. Lorsque j'étais en bonne santé, toutes ces choses me paraissaient normales. À présent que je suis un infirme, je le sais, c'est monstrueux. C'est comme si on tuait sa propre chair, pire qu'un meurtre, torturer un être vivant. Mais autrefois... Un homme en bonne santé est comme frappé d'aveuglement.
Qu'as-tu fait ? Il ne nous reste plus d'espoir.
Pense donc. Une mère crève les yeux à une créature vivante. Je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais. Je ne comprends pas.
Grete Inkemann sort.
Mon pauvre petit oiseau, mon petit copain. Comme ils nous ont arrangés, toi et moi. Des hommes ont fait cela. Des hommes. Si tu pouvais parler, tu appellerais diable ceux que nous appelons des hommes. Grete ! Grete ! Elle est partie. Notre compagnie doit l'ennuyer.
Il cherche dans la chambre.
Des miettes. Une cage. Une cage ? Pour que l'un montre sa misère à l'autre ? Non. Non, je ne veux pas être cruel. Je veux jouer au destin. Un destin plus généreux que le mien. Car moi, je t'aime bien. Je t'aime.
Inkemann sort en courant. Il revient après quelques secondes.
Floc ! Une petite tache rouge sur le mur de pierre. Quelques plumes voltiges. Terminé. Et tout se met à vaciller. Si autrefois on m'avait montré un type comme moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Il y a des circonstances où l'on ne sait pas ce qu'on ferait, tellement on se connaît peu. J'aurais peut-être ri. Elle, sa mère a crevé les yeux à un chardonneret. Sais-tu ce qu'elle va faire?
Pendant que Inkman chante, Grete entre dans la chambre. Elle le regarde avec effroi, comme secouée de dégoût, et se bouche les oreilles. Soudain, elle éclate en sanglots.
Ah, Seigneur Jésus! Ah, Seigneur Jésus!
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures, femme? Réponds! Pourquoi tu chales, dis? Dis un mot. Est-ce que tu pleures parce que les gens me montreraient du doigt comme un clown s'ils savaient ce que je suis? Parce que le coup de feu glorieux d'un salaud a fait de moi un estropié, un être ridicule? Parce que tu as honte de moi? Dis la vérité. La vérité. Tout va si. Je dois connaître la vérité. Pourquoi tu pleures?
Je t'aime bien.
Tu m'aimes vraiment? Ou bien tu trembles seulement par pitié quand tu tiens ma main?
Je t'aime bien.
On avait un chien autour de soi pendant toute sa vie. On a joué avec lui quand on était enfant. C'était une bonne bête, une bête fidèle. C'était un chien qui ne souffrait pas que quelqu'un fasse du mal. Et voilà qu'il attrape la gale. Son pelage se fripe, ses yeux sont pleins de pus. On ne peut plus le toucher, on est soulevé de dégoût. Vois-tu, s'il n'y avait pas le souvenir du chien d'autrefois qui nous regardait avec des yeux si curieux, si humains, quand on n'avait plus aucune joie dans la vie, alors on n'a plus le courage de le conduire à l'abattoir. On le tolère dans sa chambre, on le tolère. Quand il se couche sur notre lit... Grete ! Est-ce que je suis comme ce chien ?
Grete se bouche les oreilles, désespérée.
Je n'y tiens plus! Je prends une corde! J'ouvre le robinet du gaz! Je n'en peux plus!
Mais, Gretchen, qu'as-tu donc? Je ne te fais rien. Vois-tu, je suis un homme perdu. Je suis une maladie qu'on cache. Vois-tu, je suis un pantin dont ils ont tiré les ficelles jusqu'à ce qu'ils cassent. La rente ne nous laisse pas assez pour vivre, mais trop pour mourir. Tu sais, Grete, je serais prêt à trahir mes propres camarades. Je crois que je serais capable de devenir un briseur de grève. Si seulement je savais, si seulement je n'avais pas la gorge serrée, tu vois, là, j'ai comme un paquet d'épingles qui piquent. Pour ta femme, tu es un chien galeux. Eh, Grete, depuis aujourd'hui, depuis que j'ai vécu cela chez ta mère, depuis que cette idée m'est venue, cette idée terrifiante, alors ça me poursuit. J'entends des voix, des visages ricanent. J'ai dans le dos... un gramophone qui se tient là comme une bête inquiétante et déverse sa musique dans mes oreilles. Eugen ridicule. Eugen ridicule. Et puis tout à coup, je te vois toi. Tu es dans une chambre, toute seule, près de la fenêtre. Pendant que je marche dans la rue, tu te caches derrière les rideaux. Et tu te tords les côtes. Ton ventre est secoué de rire. Gretchen, n'est-ce pas? Tu ne pourrais pas rire de moi. Tu ne pourrais pas me faire cela?
Que veux-tu que je dise, Eugen? Tu ne me crois quand même pas.
Oui. Oui, je te crois, Grete. Je pourrais devenir fou de joie. Je te crois. Je trouverai du travail, même si je devais courber les chines comme une bête.
Entre Paul Gossan.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir.
Toujours de bonne humeur. On peut connaître votre recette?
Tu n'en as pas besoin, Paul. Tu as ton salaire. Bientôt, contremaître.
Vinaigre, à cause d'une réduction du personnel, c'est fichu. Le pauvre peuple est moins bien traité que le bétail. Celui-là, au moins, on l'engraisse, on le mène au champ, et c'est seulement quand il est bien gras, bien dodu, qu'on le charcute.
Vous péchez contre Dieu.
Comment les pauvres pourraient-ils pécher? Même s'il existait quelque chose comme un au-delà, les gens du peuple devraient aller au paradis. D'abord parce qu'ils n'ont pas le temps de pécher, à force de travail et de tracasserie, et puis parce qu'il faut les récompenser d'avoir procuré le paradis sur terre à leurs tourmenteurs. D'ailleurs, je suis athée. Je peux plus croire en Dieu. Croire en lequel? Celui des Juifs? Celui des païens? Celui des chrétiens? Celui des Français? Celui des Allemands?
Peut-être sont-ils tous restés dans les barbelés, ces éternels meneurs de combat.
Toute ma vie, j'ai cru en la justice de Dieu. Et cette fois, personne ne me l'enlèvera.
Si Dieu était juste, il devrait aussi être juste dans ses actes, Madame Inkman. Et quels sont les actes de ce Dieu juste, bon, généreux, hein? Il faut que je vous le répète encore. Avec Dieu pour le roi et la patrie. Avec Dieu pour massacrer des hommes, avec Dieu au service du Dieu suprême, Mammon. Tout est voulu par Dieu. On peut presque penser que quand ces messieurs ne jugent pas utile ou qu'ils se gênent de dire « moi », ils disent « Dieu ». Ça sonne mieux. Et le peuple s'y laisse prendre plus facilement. La foi, je la laisse à ceux qui en tirent profit. Nous ne luttons pas pour le ciel, nous luttons pour la terre, nous luttons pour les hommes.
Lutter pour les hommes, ça va encore. Mais pour la machine, celle-là, elle nous broie les os avant qu'on soit bien réveillé. Chaque nouvelle journée à l'usine me fait horreur. Et le matin, quand je commence mon travail, je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse y tenir tout un jour. Et le soir, quand j'entends la sirène, je me précipite vers la sortie comme un possédé.
Moi, la machine ne me gêne pas. C'est moi le maître, pas la machine. Quand je suis devant une machine, j'éprouve une joie diabolique. Tu dois faire sentir à ce serviteur que tu es le maître. Et cette chose hurlante, vrombissante et gémissante, je la pousse jusqu'à la limite de son rendement, jusqu'à ce qu'elle sue le sang, comme qui dirait. Et je ris, je me réjouis de voir comme elle peine, comme elle s'échine. « Eh bien, ma petite !» je crie. « Tu dois obéir ! Obéir !» Je lui fais avaler le bois le plus noueux pour qu'il prenne forme selon mes ordres. Selon mes ordres ! Sois un homme, Eugen, et tu seras le maître.
Dans la vie, il y a des cas où il est plus facile de devenir un dieu que d'être un homme.
Grete Inkemann fixe constamment Grossan.
Quel regard passionné vous pouvez avoir, monsieur Grossan ?
Bof. Ce n'est pas devant les machines qu'il a appris à avoir ses regards.
Mais ?
Tu veux savoir où ? Avec les femmes.
Qu'est-ce qu'un prolétaire comme moi peut attendre de la vie ? Quand il vient au monde, le vieux râle parce qu'il y a une bouche de plus à nourrir. Le matin, il va à l'école, le ventre creux. Et le soir, au lit, la faim lui vrille les boyaux. Bon, puis on l'expédie au travail. Il vend sa force comme on vend un litre d'essence et devient la propriété de l'entrepreneur, du chef. Il devient, comme qui dirait, un marteau ou une chaise, un levier ou un porte-plume, ou encore un fer à repasser. C'est comme ça. Alors, quel est le seul plaisir qui lui reste ? L'amour. Quelle est la seule chose où personne n'a rien à lui dire ? L'amour. Où il est libre, où il peut dire à ces messieurs, les entrepreneurs et les policiers, « C'est mon domaine, entrée interdite !» L'amour. Voyez-vous, les gens riches ont tant de choses pour s'amuser. Les vacances au bord de la mer, la musique, les livres. Mais nous autres, il nous arrive bien de lire un livre, mais pas tous les jours. On n'a pas assez appris à l'école, pas assez de matière grise. Et la musique, bon, évidemment, Lohengrin, c'est bien beau, mais quand je peux aller aux variétés ou à l'opérette, le comte de Luxembourg, ou le rêve de valse, ou la veuve joyeuse, vous connaissez.
Vilien, oh, Vilien, un feu des bois.
Ou quand l'automate joue pour Diffening une valse, et que je danse avec une fille, je préfère quand même. Pour nous, prolétaires, l'amour, c'est tout à fait autre chose que pour les riches. Pour nous, il est, comme qui dirait, notre raison de vivre. S'il se gangrène, alors plutôt tout de suite la corde. Pas vrai, Eugen ?
T'as peut-être raison.
Vous êtes une femme mariée, madame Inkemann. On peut donc risquer une parole franche. Qu'est-ce qu'un type comme moi aurait de la vie s'il ne pouvait pas être une fois par jour auprès d'une fille ?
Inkemann observe Grete d'un air tendu.
Qu'en pensez-vous, madame Inkemann ?
Ce que je pense, toutes les femmes ne sont pas les mêmes.
Je vais trouver du travail, Grete. Tu peux en être certaine. Je veux pouvoir t'offrir quelque chose à Noël.
Oh, tu peux économiser tes semelles.
On verra bien, Paul. Au revoir, Grete.
Inkemann quitte la pièce. Quelques minutes de silence.
Un homme taillé comme un lutteur. Dommage qu'il ne puisse pas employer ses forces. Et toujours de l'humour. Oh, vous devez être heureuse, madame Inkemann.
Oui.
Je suis toujours jaloux d'Eugen quand je vous vois comme ça ensemble.
Grete Inkemann pleure en cachant sa tête dans les mains.
Qu'est-ce qu'il y a, madame Inkemann ? Je n'ai pourtant rien dit de mal. Vous pleurez. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez que je cours après Eugen ? Je le rattraperai peut-être encore.
Grete pleurant désespérément.
Ma tête éclate. Je suis mûre pour le cabanon. Je crie, je crie.
Vous êtes malade, madame Inkemann ? Je peux vous aider ? Ou bien vous attendez peut-être un enfant ? Ça donne le vertige à beaucoup de femmes.
Oh, Seigneur Jésus ! Oh, Seigneur Jésus ! Attendre un enfant !
J'attends plutôt la mort. Je serais contente si on m'enterrait aujourd'hui.
Eugen n'est pas bon avec vous, il vous bat ?
Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Je suis une pauvre fille. Mon Eugen. Mon Eugen. Mon Eugen, il n'est pas... Il n'est pas du tout un homme.
Vous n'êtes vraiment pas malade, Madame Inkenman ? Vous avez peut-être de la fièvre ?
Non. Mon Eugen. Mon Eugen, ils l'ont amoché pendant la guerre. Et maintenant, c'est un infirme. J'ai tellement honte. Je ne peux pas l'expliquer. Comprenez-moi donc, Monsieur Grosshan. Il n'est plus du tout un homme.
Elle se tient la bouche comme effrayée par ce qu'elle vient de dire. Paul Grosshan éclate d'un rire bref et grossier.
Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Comme vous vous moquez de moi à présent! Pouah! Pouah! Je n'aurais pas pensé cela. Je ne vous en aurais pas cru capable.
Excusez-moi, madame, ça m'est sorti. Ça m'est sorti tout seul. Quand un homme entend cela, il ne peut pas s'empêcher de rire. Mais cet Eugen, c'est un bel égoïste. Comment peut-il vous retenir? Il ne vous aime pas, sinon il vous laisserait partir.
Grosshan caresse Grete. Grete s'appuie contre lui.
Tout cela est beaucoup plus pénible que vous ne l'imaginez, monsieur Grosshan. On ne s'y retrouve pas. On a l'impression que tout est clair. Et soudain, il fait nuit noire. Cet homme me fait de la peine. Quel homme c'était avant la guerre ! Plein de vie ! Mais à présent, il ne peut plus que broyer du noir. Il s'en prend à Dieu, s'en prend aux hommes. Et quand il me regarde, je crois qu'il veut me transpercer du regard comme si j'étais une chose et pas un être humain. Et parfois, il me fait peur. Alors je ne peux plus le souffrir. Il me dégoûte.
Elle est secouée de frissons.
Il me dégoûte. Seigneur Jésus, comment ça va finir ?
Pleurez, Madame Grete. Pleurez seulement. Les larmes qu'on retient sont comme des pierres qui nous pèsent sur le cœur. Voilà ce que ma mère disait toujours. Dieu est son âme.
Vous ne lui direz rien, Monsieur Grosshan. Je me jetterai à l'eau.
Je ne lui dirai rien, Grete. Pas un mot. Tu n'as pas de souci à te faire. J'ai déjà fait un mois de prison parce que j'avais promis de me taire. Tu n'as pas de souci à te faire. Tu es jeune. Regarde-moi. Diable, tu ne vas pas tenir une année si tu continues à te ronger de la sorte. Kreteken. Kreteken.
Il l'embrasse.
Voilà que je deviens quand même mauvaise.
Mauvaise ? Comment ça pourrait être mauvais ce qui vient de la nature, comme qui dirait, ou du sang ? Mauvais, c'est un mot avec lequel jonglent les curés et les capitalistes. C'est envers toi-même que tu serais mauvaise si tu voulais rester fidèle à un homme qui n'en est pas un. Et d'ailleurs, la fidélité, c'est aussi un attrape-nigaud pour le pauvre peuple. Pour les riches, c'est depuis longtemps un conte à dormir debout. Mon copain a même eu une aventure avec la femme d'un conseiller de commerce.
J'entends quelqu'un dans l'escalier, si c'est Eugen.
Alors je préfère m'en aller. Grete-ken, tu viens me voir un jour ? Tu sais où j'habite. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, je n'ai jamais eu de visite. Tu pourras épancher ton cœur, comme qui dirait. Chez moi, tu pourras pleurer toutes les larmes de ton corps. Tu viendras me voir ?
Je ne sais pas encore.
Tu te souviens, Grete-ken, comme nous construisions ensemble des châteaux de sable dans le parc ? J'avais déjà un œil sur toi quand tu étais encore toute gamine. Grete-ken, tu viens me voir ?
Grete secoue la tête malgré elle.
Pas de chichi, tu viens !
Je...
Tu viens !
Oui.
Alors au revoir, Grete-ken. Au revoir.
Paul sort.
On n'est qu'une pauvre femme.
What the hell is wrong with you? Oh, you're just doing what you're supposed to do. Oh, what?
Deuxième acte, scène première. Un emplacement devant une roulotte verte. Le forain est assis sur un billot au milieu d'instruments et d'outils. Inkeman se tient devant lui. Inkeman montre un journal.
Là.
Quoi, là?
C'est pourtant marqué là. On cherche homme solide pour numéro sensationnel. Bon salaire. Seul matériel humain de première qualité s'annoncer.
Ah, c'est pour ça. Mets-toi en plein jour, mon bonhomme.
Il palpe Inkeman.
Le biceps mou, le thorax, les cuisses, le mollet, tout est mou. Mais c'est justement ce que je cherchais, ça donne l'illusion d'une musculature d'ours. Bien, très bien, je t'engage, top là.
Et qu'est-ce que je dois faire?
Ah oui, c'est enfantin, écoute-moi bien. Le peuple, ce n'est pas un troupeau de moutons, il n'y a que les apôtres de la paix pour croire ce bobard. Les gens n'ont pas le moindre sens des affaires. Le peuple veut voir du sang, du sang. Malgré 2000 ans de morale chrétienne, mon entreprise tient compte de cela. Ainsi, on réconcilie l'intérêt du peuple avec l'intérêt privé. Compris? Pas le moins du monde, naturellement.
Il prend une flûte.
C'est quoi ça?
Il en tire quelques sons.
Un sirop pour vieille fille, de l'eau de rose, un brouet de chicorée, de la saccharine. C'est quoi ça?
Il saisit deux baguettes de tambour et se met à jouer de la grosse caisse.
C'est quoi?
Roulement de tambour.
De la musique populaire.
Roulement de tambour.
De l'ivresse.
Roulement de tambour.
L'extase. La vie.
Vous ne vouliez pas me dire...
J'y arrive. Voici une cage avec des rats. Voici une cage avec des souris. Une petite fortune là-dedans. Votre numéro? Tranchez avec vos dents lors de chaque représentation la gorge d'un rat et d'une souris. Vous sucez quelques gorgées de sang. Un geste, c'est parti. La foule est déchaînée.
À des bêtes vivantes? Non, monsieur, je dois refuser.
Mais balivernes, 80 par jour, nourris, et tout pour 50 minutes de travail? Mais pas de préjugés, voyons, affaire d'habitude. Et puis les à côté, des demandes en mariage de quoi alimenter votre fourneau. Le virus moral, vous l'envoyez par-dessus bord. L'honneur des jeunes filles de nos jours, ça se répare, il y a des médecins spécialisés pour ça.
80 marques?
Ah, ça mord.
Incroyable, des bêtes vivantes.
Mais essayez donc de trouver un autre travail, mon bonhomme. Partout complet. À prendre ou à laisser.
C'est seulement à cause de ma femme. Lorsqu'un être nous aime, qu'on a peur de se perdre petit peu d'amour. Les gens comme moi n'ont pas beaucoup d'amour. Vous ne pouvez pas me trouver un autre emploi, monsieur.
À prendre ou à laisser.
Oh, mais 80 marques. Les gens comme moi, on doit tourner comme un manège, toujours en rond. J'accepte, monsieur.
Eh bien, voilà, tu vois. Les rois, les généraux, les curés, les forains, ce sont les seuls politiciens. Ils prennent le peuple par les instincts.
La lumière s'éteint. Deuxième scène, il fait sombre.
Tu m'aimes?
Toi. Toi.
Et Eugen croit...
Tais-toi. Ne parle pas d'Eugen. Je le déteste. Je le déteste.
Vous êtes drôles, vous les femmes. Pourquoi tu ne l'as pas quitté tout de suite? Tout de suite quand il est revenu, lorsque tu as appris?
Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. Je crois que j'avais honte devant les autres.
Ah, pauvre type au fond, quand on y pense.
Tu ne dois pas y penser. Je ne veux pas.
Après tout, Eugen est mon ami.
Tu ne dois pas. Tu ne dois pas.
Comment c'était le premier soir? Il a essayé?
Oh, Paul. Tais-toi donc.
Et s'il était en bonne santé, tu viendrais aussi me voir?
Pourquoi tu te lèves?
Qu'est-ce que tu fais?
Si Dieu pouvait te rendre muet. Et moi, et lui, et tout le monde.
Parler est devenu l'enfer.
Troisième scène. Le décor évoque une fête foraine. Au premier plan, une baraque dont les parois aux couleurs criardes surpassent en violence le vacarme. Orgue de barbarie, trombone. Sur les tréteaux, devant la baraque, une femme tatouée et Inkeman en tricot couleur chair.
Mesdames, messieurs, approchez s'il vous plaît, approchez, écoutez, regardez, admirez. Tout d'abord, nous vous présentons Monarchia, la dame tatouée qui porte sur son corps, nu, de face, les chefs-d'œuvre les plus sublimes d'un Rembrandt, d'un Rubens, et de dos, les portraits de rois les plus modernes, expressionnistes, futuristes, dadaïstes. La dame ne dévoile pas seulement les jambes, la dame ne dévoile pas seulement les bras, la dame ne dévoile pas seulement son dos, la dame dévoile toutes les parties de son corps que, d'après les prescriptions de la loi de l'Église, seule les dames et les messieurs de plus de 18 ans ont la permission de regarder. Et en intermède, vous verrez comment on décapite un enfant vivant. Cela, vous ne l'avez encore jamais vu. On ne voit pas ça en Afrique, on ne voit pas ça en Asie, on ne voit pas ça en Australie, ça. On le voit uniquement et exclusivement en Amérique et en Europe. Et pour finir, monsieur Homunculus, l'homme ours allemand, il dévore, mesdames et messieurs, des rats, des souris, tout vivant devant les yeux du public. C'est le héros allemand, la culture allemande, la poigne allemande, la puissance allemande, la coqueluche des femmes du monde. Il réduit les pierres en bouillie, enfonce à main nue des clous dans les boîtes crâniennes les plus solides, et étrangle avec deux doigts 32 personnes. Qui le voit prend la fuite et qui s'enfuit doit mourir de sa main. Celui-là, vous devez l'avoir vu si vous voulez voir l'Europe, si vous voulez avoir vu l'Europe. Mais vous verrez encore d'autres choses chez nous. Vous aurez des surprises dont je ne peux pas et je ne veux pas éventer ici les dessous arcnéens, translucides. C'est pourquoi, entrez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous ne payez pas un marque, vous ne payez pas 50 feelings, mais non. Aujourd'hui, comme nous comptons sur des entrées massives, mesdames et messieurs, vous payez par tête 30 petits entrez, mesdames et messieurs, entrez. Les premiers venus seront les meilleurs placés. L'orchestre joue pour la dernière fois. Les artistes se dirigent vers la scène. Tintement de clochette. À la caisse. À la caisse.
Et dis, Thérèse, si on pouvait lui tâter le biceps à celui-là ou le torse.
Eh bien, mesdames, tâtez seulement, vous ne tâterez plus du papier mâché, vous ne tâterez pas du chiquet, vous toucherez Homunculus, la puissance allemande faite chère.
Arrivent Grossan et Grete Inkeman, tendrement enlacés. D'abord, ils ne regardent pas la baraque. Pendant qu'ils parlent, on n'entend pas le bruit, le vacarme devant la baraque. On voit les gestes et les mimiques des badauds.
Est-ce que la vie n'est pas belle, Grete? On aimerait pousser des cris de joie. Tu veux encore une fois monter sur le manège, Grete? Tu peux tout avoir maintenant.
Je dois rêver. C'est comme un conte de fées. 6 années enfouies sous le chagrin, les soucis, la souffrance. J'étais comme une souris tapie dans son trou qui n'ose pas courir à la lumière. Ce n'est pas que j'exige beaucoup de la vie, Paul. Tu ne dois pas croire cela. Quand on est fille de prolétaire, on voit déjà à la maison ce qui nous attend. Si tout va bien, une vie pleine de soucis jusqu'à ce qu'on soit vieille et qu'on dépende des enfants. Si ça va mal, des disputes, des querelles, des coups. Mais que j'aurais une vie pareille.
Maintenant, une nouvelle vie commence.
Dis, Paul.
Quoi donc, Grete?
Toi.
Elle embrasse Paul longuement et passionnément.
Oh, comme la pudeur s'envole devant tout le monde. Je le savais bien. La pudeur, c'est aussi seulement une notion, comme qui dirait...
On entend la voix du forain.
Hominculus, l'homme ours allemand.
Paul! Paul!
Qu'as-tu à crier comme ça, Grete?
Regarde là-bas, Paul! Tu sais qui c'est?
Qui?
L'acrobate en tricot!
Où aurais-je appris à le connaître? Un artiste ambulant, aujourd'hui là, demain ailleurs.
C'est lui!
Qui?
Hagen!
On entend la voix du forain.
Bouffe des souris et des rats tout vivant sous les yeux du public. C'est le héros allemand, la poigne allemande. Hominculus, fais jouer tes muscles, regardez bien, cher public.
Inkemann prend une pose de lutteur et fait jouer ses muscles. La voix devient inaudible.
Mais c'est une misérable tromperie. C'est ça le héros allemand? Un type sans... Un eunuque! Oh, mais c'est plutôt l'air qu'avait le guerrier allemand bien planqué. Ceux qui tenaient des discours en lieu sûr, les gros lards de Bruxelles, les journalistes, les profiteurs de guerre, les jusqu'au boutistes, les revanchards. Dis donc, le forain se remplit bien les poches avec du carton pâte.
Tais-toi, tais-toi. Oh, comment peux-tu à ce point manquer de cœur? Et moi, quelle femme je suis! Je suis pire qu'une pauvre putain! Elle, elle vend son corps! Moi, je vends mon homme!
Paul tient fermement le bras de Grete.
Hey, ne crie pas comme ça! Arrête avec ces sentimentalités!
Tu n'as pas entendu? Il mange des souris et des rats vivants! Cet homme ne pouvait pas faire de mal à une mouche! Cet homme a battu ma mère parce qu'elle avait aveuglé son chardonneret! Cet homme n'a pas permis de placer un piège à souris dans la cuisine parce qu'il trouvait que c'était un supplice intolérable. Et maintenant, il mange des souris et des rats vivants.
À partir d'aujourd'hui, t'as plus besoin de l'embrasser.
Je vais l'embrasser. Ici, ici devant cette baraque, devant les yeux de tout le monde, je l'embrasse. Comme j'ai agi envers cet homme, qu'est-ce qu'il en peut pour sa blessure? La blessure, c'est moi qui l'ai laissé partir à la guerre. La coupable, c'est sa mère. La coupable, c'est cette époque où il se passe de pareilles choses.
Et ferme ta gueule! Les gens nous regardent déjà, viens. Ils pourraient te voir.
Qu'ils me voient et qu'ils voient ma honte. Je veux me jeter à ses genoux. Dieu m'a maudite. Je suis une vermine dans sa main. Lâche-moi, que je puisse courir vers lui.
Paul serrant Grete contre lui.
Et s'il te dégoûte à nouveau?
Alors je l'aimerai encore plus.
T'es malade, ma fille. Et viens.
On entend la voix du forain.
Entrez, mesdames et messieurs, il y aura des surprises.
Le forain va dans la tente. La scène se vide. De toutes parts approchent en cercle concentrique des mutilés de guerre, manchots ou unijambistes, avec des orgues de barbarie. Ils chantent joyeusement la chanson militaire suivante.
Eine Kugel flog von hin.
Eine Kugel flog von hin.
Tön in deitre Brust.
Tön in deitre Brust.
Einen unlichligen.
Einen unlichligen.
Fremder Erde holdes Lieb.
Fremder Erde holdes Lieb.
Ruhe Hunden gedein.
Ruhe Hunden gedein.
Ruhe Hunden gedein.
Ruhe Hunden gedein.
Soudain, ils s'immobilisent. Coup sur coup, ils crient l'un après l'autre.
Mon territoire!
Mon territoire!
Mon territoire!
Ils hurlent tous ensemble, quelques secondes de silence, aucun ne voulant céder. Ils se remettent tous en marche, comme sur un ordre, et avancent les uns contre les autres. Comme si, enflammés d'ardeur révolutionnaire, ils voulaient prendre d'assaut une barricade de réactionnaires. Ils chantent et jouent frénétiquement de l'orgue de barbarie.
À bas les chiens!
À bas les chiens!
À bas les chiens de la réaction!
À bas les chiens!
Les orgues de barbarie s'entrechoquent. Propulsés en arrière, les hommes marchent à nouveau les uns contre les autres. Quelques policiers accourent. On les entend crier.
Ordre et calme.
Force publique.
Anciens combattants.
Oh, anciens combattants.
Calme brusque, comme si un son bien connu réclamant le silence avait frappé les oreilles des Invalides. Demi-tour militaire. D'un pas décidé, les Invalides repartent dans des directions différentes, mais toujours en formant un cercle. Ils continuent de jouer et de chanter d'un air martial.
Vainqueurs, nous battrons la France.
Vainqueurs, nous battrons la France.
La scène se ranime. Même si je vais porter ces chemises au mont de piété, vous ne devez pas croire que je n'ai plus de chemise dans mon armoire. Je possède même une précieuse mantille de soie ultra chic qui vient de ma grand-mère. Mais il n'y a plus d'objets de valeur dans la maison, alors il faut bien que les chemises y passent. Grosshan et Grete Inkemann sont de l'autre côté de la scène. Grete Inkemann, que Grosshan retient toujours, se débat.
Non !
Et tu ne viens pas avec moi ?
Non !
Et s'il s'aperçoit que tu es enceinte ?
Il me pardonnera. Il est bon.
Il te flanquera une dérouillée.
C'est mon sort. Maintenant, je comprends à quoi Dieu m'a destinée. Dieu ne m'a pas tout à fait rejetée. Dieu m'a imposé une pénitence. Je l'accepte humblement. Je veux servir Eugen comme s'il était mon sauveur.
Je vais aller le voir. Tout de suite.
Nous irons le voir tous les deux.
Et lui dire que tu l'as trompé.
Pourquoi tu me menaces, Paul ? Je ne vais quand même pas rester avec toi. Ma vie ne m'a jamais appartenu. Lorsque j'étais petite, j'ai toujours attendu la vie. Plus tard, je l'ai vue de loin. Mais quand j'ai voulu la saisir, j'ai tout à coup pensé que j'avais des mains grossières et sales, et la vie paraissait toujours se promener dans des vêtements de soie. Alors, je n'osais plus sortir mes mains de sous mon tablier. Pourquoi offrir mes mains à la vue de tout le monde ? Aujourd'hui, il me semble que la vie est sale, elle aussi, et qu'il ne vaut pas la peine de la saisir.
Alors, va au diable, espèce de sainte nitouche. Il y en a assez d'autres. Je n'ai qu'à lever le petit doigt. Elles viennent comme les abeilles sur des fleurs bleues.
Ils sont entraînés par la foule. Le forain est sorti de sa baraque, Inkemann avec lui.
Mesdames et messieurs, approchez, approchez seulement, approchez, écoutez, regardez, admirez, mesdames et messieurs.
Quatrième scène. Le décor évoque l'intérieur d'une petite auberge d'ouvriers. Un comptoir derrière lequel une aubergiste corpulente sert avec des gestes énergétiques et aimables. Les clients sont installés à des tables de bois sans nappe. Max Knatch, Peter Immergleich, Zebaldus Singegott et quelques autres. Deux ouvriers, un couvreur en ardoise et un couvreur en tuiles, se tiennent au comptoir. Avant que le rideau se lève, on entend déjà des voix qui se disputent.
Et même s'il y avait 100 révolutions, aucune révolution n'y changera rien. Un peintre décorateur, c'est autre chose qu'un badigeonneur. Un imprimeur de livres, autre chose qu'un imprimeur de papier peint. Un typographe de journal, autre chose qu'un tableautier. Un chaudronnier, autre chose qu'un rétameur. Un cocher de maître, autre chose qu'un charretier. Nous restons couvreurs en ardoise et vous, vous restez couvreurs en tuiles.
Oh, orgueil ridicule, stupide, vanité. Nous mangeons à la même table que vous. Même si nous ne sommes que de vulgaires couvreurs de tuiles et pas de nobles couvreurs en ardoise, nous sommes couvreurs en tuiles. Nous sommes fiers. Mais oui, couvreurs en tuiles.
Et travailler dans l'ardoise, c'est de l'art. Poser des tuiles, c'est du travail de manœuvre.
Nous devons travailler autant que vous. Il n'y a pas de différence.
C'est la qualité qui compte. Comment c'était avant la guerre? Est-ce que nous ne touchions pas 5 pfennigs de plus que vous? Ce n'est pas une preuve, ça? Couvreur en ardoise, reste ce que tu es. Si on me demandait aujourd'hui de travailler dans la tuile, oh, le plus petit de mes gamins se tendrait de rire. Personne n'a le droit de toucher à mon honneur. Pas même une révolution.
Il paie, en sortant.
Vaniteux couvreur en ardoise.
Minable couvreur en tuile.
Monsieur le baron de l'ardoise.
C'est de la jalousie, de la jalousie. Tu fais le rigolo, couvreur en tuile.
L'unité du prolétariat. Le prolétariat éclairé. Il n'y a pas de différence de classe dans le prolétariat, diable. Il aperçoit Inkeman qui vient d'entrer et s'est installé à une table libre. Eugen Inkeman, qu'est-ce qui t'amène ici?
J'avais la gorge sèche. J'ai un goût comme du sang d'animal. Un goût empoisonné, nauséeux, qui m'a attaqué la gorge. Il fallait que je boive un coup. Bon Dieu, je ne prêche pourtant pas l'abstinence. Il n'y a pas de quoi t'étonner.
M'étonner? Mais pas du tout. Pourquoi devrais-je m'étonner? Moi, je n'ai pas besoin de goût empoisonné pour aller à l'auberge. Quand chez moi, je vois la cuisine, qui est en même temps notre salon, notre chambre de séjour, notre buanderie et notre séchoir, quand je vois les pauvres enfants, quand je pense à la femme qui rouspète et rouspète, alors je fais demi-tour dans l'escalier et je cherche mon salut ailleurs, chez Madame Henri. Bien sûr, nous les hommes, on est aussi coupables, hein. On dit rien, on ne pipe pas mot. Dans les assemblées, devant les étrangers, on parle d'une vie nouvelle, véritable. Et devant sa propre femme, eh ben, on ne sort pas un mot.
Pendant que Knatch parle, Michel Unbeschwert arrive.
Oui, le bonheur habite aujourd'hui les palais, les villas. Là où ils ont 20 pièces et se sentent à l'étroit. Mais cette guerre a ébranlé les fondements. Déjà, ça grince et craque de partout. On voit les murs se fissurer. Déjà, ceux que leur conscience ne laisse pas dormir ont les genoux qui tremblent. Déjà, on les entend claquer des dents, le visage blême. La lumière va se faire, camarade.
Ta lumière, c'est pas la vraie lumière. Ta lumière, ce sont des feux follets devant les portes de la forteresse céleste. Tu sembles croire que tout ouvrier est un militant du parti. Il y a beaucoup d'ouvriers qui cherchent leur idéal tout à fait ailleurs. C'est ce que vous oubliez toujours.
Tu parles du bonheur, camarade Unbeschwert. Je me suis longtemps demandé ce que c'est au fond, le bonheur. Et tu sais, j'ai finalement compris que nous ne pouvons pas apporter le bonheur à chacun. Le vrai bonheur, je veux dire, que le bonheur est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas.
Idéologie bourgeoise, camarade Inkeman. Tes paroles me paraissent vraiment bizarres. Du sein de l'évolution historique des circonstances naîtra le nouvel ordre social. De même que la mer du Nord et la Baltique grignotent de plus en plus la terre, sans que nous nous en apercevions, d'eux-mêmes, nous entrerons dans l'État socialiste, sans nous en apercevoir. C'est pas un fantasme, hein. C'est prouvé, scientifiquement. Alors ce sera comme pour les décisions du parti. Très simple. Pour commencer, nous ne produirons plus de chemises de soie pour ces quelques petites dames paresseuses qui ont besoin de chemisettes de luxe. Nous produirons d'abord des chemises de laine, bon marché, afin que ceux qui n'en possèdent pas puissent se réchauffer et se vêtir. Nous créerons ainsi des rapports dictés par la raison. En trois mots, une humanité raisonnable. Et une humanité raisonnable produit une existence heureuse. Ainsi, l'humanité passera du règne de la nécessité au règne de la liberté. C'est pourtant très simple.
Se tournant vers Knatch.
Ceux, par contre, qui croient pouvoir sauter les étapes historiques, ces émissaires radicalistes et exaltés venus de l'Est, qui veulent mettre la foi à la place de la science.
Vous les frappez de vos foudres, je sais bien. Et pourvu que vous ayez une formule, il te manque que la barrette pour faire un curé, mon cher. Ce qui compte, c'est la volonté des hommes. Si les hommes n'ont pas de volonté révolutionnaire, toutes vos circonstances, là, n'y feront rien. Mais si les hommes ont une volonté révolutionnaire, ils peuvent commencer une nouvelle vie, quelles que soient les circonstances, immédiatement, aujourd'hui même. Ils n'ont pas besoin d'attendre des circonstances particulières. Vous, par contre, obéir, oui, c'est la seule chose que vous connaissez. Mais prendre des responsabilités, non. D'ailleurs, vous avez failli chaque fois que les circonstances étaient mûres et exigeaient des actes.
Ta lumière, c'est pas non plus la vraie lumière, Max Knatch. Je me suis réveillée, camarade. J'ai vu briller la lumière et j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller vers elle, vers la lumière céleste.
Pour moi, c'est du pareil au même, pourvu que j'ai ma tranquillité. Ma tranquillité, si quelqu'un la trouble, alors...
T'es d'aucun parti, Knatch. T'es un anarchiste. Celui qui n'est dans aucun parti ne se sent pas responsable. Ça vaut pas la peine de discuter avec toi. Commence par procurer un livret de parti. Et toi, Zingugot, tu n'es pas éclairé, tu n'as pas de conscience de classe. Je le répète, les circonstances historiques, hein, tout le reste c'est simple.
Peut-être c'est simple. Il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis. Je ne pourrais pas mieux l'exprimer, ce que tu dis. Sur les chemises de laine et les chemises de soie, l'homme n'est pas bon quand il a faim. Il faut d'abord lui donner un toit et de la nourriture et un peu de beauté, avant d'exiger qu'il soit bon. Je suis peut-être trop maladroit pour saisir tout cela, pour y voir clair, pour comprendre aussi bien que toi. Tu es fonctionnaire de parti, tu saisis vite. Ce n'est pas que je dise quelque chose contre le parti. Pour le prolétaire, le parti signifie autre chose que pour le bourgeois. Pour le bourgeois, c'est le parti, rien d'autre. Pour le prolétaire, malgré toutes les tâches, malgré les éclaboussures, c'est davantage. Sa foi, sa religion... Il les apporte au parti. Mais dis-moi, lorsqu'un homme est malade, malade de nature, intérieurement malade, incurablement malade, ou extérieurement malade, incurablement malade, est-ce que des circonstances raisonnables peuvent rendre cet homme heureux ?
Je te comprends pas tout à fait.
Oui, depuis que j'ai été blessé à la guerre, j'ai moi-même l'impression que mes pensées sont confuses. Chaque jour, quand je me lève le matin, je dois faire un effort gigantesque pour mettre de l'ordre à l'aide de quelques paroles, quelques pensées dans tout ce qui est en moi, tout ce qui m'entoure, tout ce qui me tombe dessus, me touche, me pénètre. La vie est si étrange, tant de choses nous assaillent qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas, qui nous angoissent carrément. On n'en voit pas le sens. On se demande même s'il est possible de comprendre la vie, si ce n'est pas comme si on voulait essayer de vider un océan, si ce n'est pas exactement comme si on voulait essayer de se comprendre soi-même, n'est-ce pas ? Ce n'est pas possible. On peut seulement vivre sa vie, mais lorsque l'on regarde en arrière, c'est pourtant toujours autre chose que ce qu'on a vécu. On se dit parfois, on est une partie de la vie, et on vit, et c'est tout. Celui qui veut chercher la vérité, ou même un but, fait la même chose que cet homme qui cherchait la vérité et le but d'un prunier, jusqu'à ce que je m'y sois retrouvé. Le matin, quand on se lève, on a du brouillard en soi. Et le soir, quand on va se coucher, il y a de nouveau du brouillard, un chaos. C'est comme avant la création du monde. Donc, je vais essayer de m'expliquer plus clairement. Voilà. Nous avons tant de mutilés depuis la guerre. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ?
Mais ils seront naturellement nourris, vêtus, aidés par la société. Ils pourront alors vivre tout aussi heureux que les autres.
Si quelqu'un, par exemple, n'a pas de bras ?
Eh ben, il reçoit un bras artificiel. Et s'il est capable de travailler, on lui confie une tâche facile.
Et si quelqu'un n'a pas de jambes ?
La société l'aide, de la même façon que celui qui n'a pas de bras.
Et si quelqu'un est malade dans son âme ?
On le met dans un asile. Mais Mais pas dans ces asiles où les gardiens croient qu'ils ont une bête devant eux. Les malades sont traités avec amour. Ils sont bien traités. Ils sont traités comme des hommes.
Je ne songe pas à ceux qui sont malades de la tête ou du cerveau. Je songe à ceux qui sont bien portants et pourtant malades dans leur âme.
Ça n'existe pas. Celui qui a un corps en bonne santé a aussi une âme en bonne santé. Le bon sens nous le dit. Ou alors c'est un esprit qui est malade et il faut le mettre dans un asile.
Et encore une autre question. Si quelqu'un qui était à la guerre a perdu à cause d'un projectile, par exemple, son sexe, qu'est-ce que la nouvelle société ferait pour lui?
Mais quelle question compliquée tu poses, ça me pose des sueurs. Non mais sérieux, camarade, y a pas à en rire. Hein. Non mais ces choses-là peuvent arriver.
On peut en pleurer mais pas en rire.
Ouais, stop.
Pour celui-là, la lumière céleste devrait venir à lui d'elle-même par amour miséricordieux.
Bon, écoute, s'il faut que je te réponde, enfin, si tu veux que je te réponde. Le matérialisme scientifique, pour autant que je sache, ne connaît pas ce problème. Ah non, idiot, que je sais. J'ai trouvé. Écoute, la société future ne connaîtra plus la guerre. Voilà. Voilà ce que nous dit la raison. Donc c'est en effet, c'est simple.
Pas si simple que ça. Quand on créera la société nouvelle, il se peut qu'il y ait encore de pareils mutilés. Comment pourront-ils être heureux? Ou bien, quelqu'un peut, en travaillant à sa machine ou n'importe où, perdre son sexe. Comment sera-t-il heureux?
Encore une de ces questions, une question diablement embarrassante.
Ouais, c'est tiré par les cheveux. L'homme se sent heureux quand il ne pense pas à ce genre de choses. Et nous, les prolétaires, nous n'avons pas du tout besoin de notre lutte révolutionnaire de songer à ces cas aussi singuliers. Les hommes à qui une chose pareille arrive sont des victimes, des sacrifiés. Et le prolétariat a droit à des sacrifices.
Where I belong, when the days are short and the nights are long, and I want, and I want, I choose, and I choose, and I shoot, and I shoot, and I fly, and I fly. Where do I stay happy for? In the one kind of fun to serve. When I'm going out west down on the coast. Well, the California girls are really the best. And I want, I need one, I choose, I need two. And I shoot it, I need shoot. And I fly, I need fly. Well, we're out there having fun in the warm California sun. Out for school, I feel a little cheek wherever you go. Oh, 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 and I walk, and then walk, I choose, and then choose, and I shimmy, and then shimmy, and I fly, and then fly. Well, we're out there having fun in the warm California sun. Well, we're out there having fun in the warm California sun.
Voilà, vous avez entendu le premier acte ainsi qu'une partie du deuxième acte de Inkemann, de Ernst Stoller. Et donc, comme ce n'est pas fini et que comme vous, nous avons envie de suivre et de terminer cette pièce, cette petite tragédie, on va dire, eh bien, on se retrouvera plus tard.
Ce
sera annoncé sur le site de l'émission, comme d'habitude, et puis sur Facebook, puisque on est sur Facebook. Donc, à très bientôt, et puis on vous souhaite un bon après-midi.
Bon après-midi.
Allez, au revoir. C'était le théâtre de la gamelle.
Il était sur son char.
Amateur,
propagande.
Il n'y a pas d'arme, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction,
obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Oui.
imitait son silence.